C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.
Nous sommes en compagnie de Claire David, directrice des éditions Actes Sud Papier, spécialisée dans le théâtre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir la différence qui existe entre Actes Sud Papier et Actes Sud Théâtre. Est-ce que vous représentez, est-ce que c'est la même...
Oui, tout à fait. C'est juste la différence, elle est liée à l'histoire. C'est-à-dire qu'en 1985, Christian Duperron crée les éditions papier spécialisées dans la publication de pièces de théâtre. Parallèlement à ça, en 1978, Hubert Nissen a créé les éditions Actes Sud, éditeur de littérature générale, dont du théâtre. Donc Hubert Nissen, dès le début, publie du théâtre, par-ci, par-là, en fonction des auteurs qu'il choisit. Il n'a pas un département, il n'a pas une spécialité, mais il existe du théâtre chez Actes Sud. Et quand en 1987, Actes Sud rachète papier et que l'on devient Actes Sud Papier, à ce moment-là, Hubert Nissen est encore en activité, on va dire en 1993, même très actif, la maison Actes Sud. Il garde une espèce de département théâtre, qui n'est pas vraiment un département, qui sont par-ci par-là des collaborateurs avec lesquels il aime travailler. Il y a à ce moment-là Antoine Vitesse avec la revue L'Art du Théâtre. Il y a à ce moment-là Georges Banu avec la collection Le Temps du Théâtre. Il y a Michel Vinavert avec la collection Réplique. Donc ce sont surtout des essais ou de la pensée sur le théâtre, mais parfois... Il peut publier aussi certains textes de théâtre. Et petit à petit, avec les années, et même bien avant la disparition d'Hubert Nissen et celle de Christian Duperron, papier devient le secteur théâtre de toute la maison Actes Sud.
Alors, Actes Sud, et vous l'avez dit dans un entretien, possède un fonds important qui constitue 70%, si je me souviens bien, de la maison d'édition, en tout cas des ventes. Je voulais savoir comment se passait l'accompagnement de ces auteurs, justement, à partir du moment où ils publiaient leurs premières œuvres et jusqu'à les publications qui se suivent. Comment est-ce qu'on accompagne un auteur sur 20 ans, sur 30 ans, quand on est un éditeur ?
L'accompagnement d'un auteur, c'est très important parce que c'est effectivement une forme de fidélité qu'on lui demande dès la première acceptation d'un texte dans la maison. On lui spécifie bien qu'il entre dans une maison et ça veut dire qu'on va avoir une relation privilégiée ensemble. Enfin, c'est pas une loi, c'est notre ADN à nous, Actes Sud, hein. Ça n'a rien à voir avec le système des contrats. Il y a d'autres éditeurs qui vont publier au coup par coup et qui vont jamais rencontrer les auteurs. Et bon, voilà. Nous, c'est un principe, c'est-à-dire avant tout, au-delà de l'œuvre, il y a quelqu'un qui l'écrit. D'autant plus que nous sommes sur un territoire de textes qui s'écrit de nos jours, donc de textes contemporains. Et donc, c'est une forme de contrat moral, on va dire, que l'on passe avec l'auteur, où on lui dit bah, dorénavant, on se tient au courant, les uns les autres. de ce qui se passe. Et il y a une sorte de droit de préférence, mais c'est un droit moral, ce n'est pas un droit juridique. C'est-à-dire que les textes nous sont d'abord envoyés avant que l'auteur en sollicite d'autres éditeurs. Et en fonction de notre décision éditoriale, il sera libre d'aller voir ailleurs ou il re-signe avec nous. Bon, l'objectif, évidemment, le meilleur pour un éditeur, c'est qu'il signe toujours et qu'on accompagne l'ensemble de l'œuvre. Si tout d'un coup l'auteur se met à écrire du roman, que ce roman soit publié chez Actes Sud, si il y a de la musique, que la musique soit publiée chez Actes Sud, s'il écrit des poèmes, s'il écrit pour la Genèse, s'il écrit des essais, vous voyez, c'est quand même magnifique d'arriver à rassembler toute une œuvre chez un même éditeur. Voilà, c'est magnifique à la fois pour l'éditeur, c'est magnifique pour l'auteur, parce que je pense qu'il est déchargé d'un souci, il a un interlocuteur pour tout ce qu'il peut produire. Et puis c'est magnifique aussi et plus facile, on va dire, pour le libraire ou pour le lecteur, qui saura que tel auteur est attaché à telle maison d'édition. Ainsi se constitue le catalogue, on va dire un catalogue. Il est constitué aussi de figures marquantes pour un éditeur, une figure d'auteur marquante pour un éditeur. Nous nous sommes très fiers, par exemple, que Laurent Godet continue à publier toute son œuvre uniquement chez Actes Sud, alors que, vu le succès de ses romans, il pourrait très bien essayer de se monnayer plus cher, éventuellement aller chez d'autres éditeurs ou essayer je sais pas quoi. Ce n'est pas sa stratégie, l'accompagnement doit lui convenir, et voilà, et ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble.
Mais justement, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une collection poche dans Actes Sud, qui réédite parfois les œuvres théâtrales après leur publication en hors collection. Cette édition en poche, elle sert à quoi? C'est pour un public plutôt scolaire ou pour diffuser l'œuvre plus largement?
Le poche, il existe dans toutes les maisons d'édition et le poche, il est c'est un canal de diffusion et de distribution très particulier. Le poche, il y a des rayons poche dans les librairies. Le poche, il peut être mis en tête de gondole, par exemple, près des caisses. Le poche, c'est un livre pas cher. Ce n'est plus une première édition où on peut prendre un soin particulier au choix du papier, à la couverture. Donc là, on va avoir un papier beaucoup moins cher, même si le livre peut être joli. Hein. C'est pas pour autant qu'on est obligé de faire un livre moche. Mais voilà, on va pas forcément avoir des cahiers cousus collés. Bon, on va essayer de diminuer les coûts de façon à diminuer le prix public par rapport à un lecteur. Donc en général, la stratégie éditoriale d'une première édition, c'est un passage en poche un an après. Or, il s'avère qu'en théâtre, si vous voulez, on n'est pas sur les mêmes flux, parce qu'en théâtre, un an après, on peut en avoir vendu vraiment pas beaucoup. Donc on estime qu'on n'a pas exploité encore suffisamment la première édition. Et donc du coup on a déterminé plus ou moins une règle à l'intérieur de la maison, j'ai un crédit de 4-5 Babel, c'est Babel la collection poche d'Actes Sud, par an. Donc avec la personne qui s'occupe de Babel, on programme des titres qui sont rarement donc des nouveautés mais qui sont des secondes éditions d'un titre théâtre, voilà, et qui vient se fondre à la publication des poches. Et du coup, on a un autre réseau de diffusion et de distribution. Comprenez-moi bien, on n'est pas uniquement dans le rayon théâtre de la librairie, on est aussi dans le rayon poche. Donc c'est très très important. Alors, qu'est-ce qui décide du passage en poche? Évidemment, ça va être un titre qui s'est plutôt bien vendu en première édition, ça va être un titre qui va être prescrit auprès des étudiants, parce que on sait que, enfin, on nous dit que 10 euros un étudiant n'achète pas de livre, 5 euros, il l'achète. Voilà. Donc on fait en sorte que le livre soit à 5 euros. Donc, ce qui peut être possible si on augmente les tirages. Enfin, après, ça, c'est l'économie du livre. Et du coup, parfois, on ajoute une postface de façon à ce que l'étudiant ait, on va dire, une lecture augmentée par un essayiste et qui va l'aider. Par exemple, c'était le cas Maison de poupée dans la traduction d'Éloi Recoin et de Ruth Hortmann a été prescrit aux étudiants des classes prépa scientifiques. Évidemment, nous, on l'avait en première édition, mais il était à, faudra vérifier, mais enfin, je crois qu'il était à 15 euros ou 17 euros. C'est quand même un. Donc, c'était beaucoup trop cher. Donc, à ce moment-là, on a décidé de le publier en poche, de façon à ce que les étudiants puissent le trouver. Et on l'a même publié en version numérique aussi, de façon à ce que les étudiants puissent le trouver plus rapidement. Donc ça, c'est un type de prescription pour le passage en poche. Un autre, ça va être une très bonne vente en papier. Ça permet de relancer les ventes sur certains auteurs. Par exemple, Jean-Michel Ribes passe toujours en poche. À l'époque, Jean-Claude Briseville est toujours passé en poche. Jean-Claude Grimbert passe toujours en poche. Vous voyez, il y a des auteurs comme ça qui sont nos très bonnes ventes et qui passent en poche.
Mais je voudrais revenir sur la particularité du théâtre qui est d'abord en scène. Enfin, pour la plupart des éditions, c'est d'abord des pièces qui sont jouées. Et je voulais savoir si les pièces avaient la publication simultanément avec leur représentation, ou si c'était totalement indépendant. En clair, le lien que vous pouvez avoir avec les institutions théâtrales, que ce soit des centres dramatiques nationaux ou des festivals.
Le lien, il est le plus fort possible. Donc, c'est-à-dire que dans la décision de publication, retenez bien chaque mot, c'est-à-dire que la décision de publication, elle est en amont de la création. Mais une fois que j'ai décidé que ce texte serait publié, j'examine à quel moment la pièce va être jouée et je cale la date de sortie de la publication sur une date de création. C'est tout simplement commercial, c'est-à-dire et médiatique. Ça me permet, d'avoir des arguments supplémentaires pour motiver les libraires à prendre les ouvrages, d'avoir la critique dramatique qui va recenser la publication, parce qu'on sait très bien que la critique littéraire ne recense pas les publications de théâtre. Bon. Mais au-delà de ça, au fond, c'est une bonne idée de se caler sur une date de création. Pourquoi ? Parce que l'auteur, il va avoir à ce moment-là un renvoi de sa propre écriture. Il va l'entendre, son texte écrit. Et à ce moment-là, il va éventuellement procéder à des modifications si le texte va passer la rampe, comme on dit, au théâtre. Et donc, il va pouvoir... le texte, lui, il va pouvoir asseoir, on va dire, une destination à son texte, qui est la destination du théâtre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire l'adresse au théâtre, elle n'est pas purement théorique. Elle est tout d'un coup prise en charge par des comédiens, par des metteurs en scène. Et ça, finalement, c'est très important comme renvoi aux auteurs. Voilà. Donc du coup, c'est un argument important sur tous les plans.
Il ne viendra pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige, mais tombe la neige, impassible ma neige.
Vous avez évoqué le lien avec la critique dramatique et le fait évidemment que la plupart des grands médias ne parlent pas des publications de théâtre. Quels échanges vous pouvez former avec des critiques dramatiques justement ? Est-ce que c'est uniquement lié à la scène ou est-ce que c'est vraiment lié à la maison d'édition ?
Il n'y en a aucun. On est la cinquième roue de la charrette. Voilà. Donc il n'y a pas d'échange sur le fond, bon, si ce n'est titre amical et personnel. Hein, il m'arrive de discuter avec des journalistes sur la valeur d'un texte, évidemment, mais rien de sérieux.
Vous le déplorez ?
Ah bah tout à fait. C'est comme si la critique dramatique ne savait pas lire un texte pour lui-même, et comme si la critique dramatique ne savait lire un texte que quand ils l'entendent.
Et du coup, la diffusion au niveau des libraires, elle se fait de quelle manière ? J'ai vu que vous publiez une sorte de gazette qui recense vos publications. Est-ce que c'est un médium fait pour les libraires ou pas uniquement ?
Pas uniquement. C'est aussi fait pour les libraires, et voire même pour leur clientèle. Donc certains libraires en reçoivent une petite quantité, et les gens intéressés par le théâtre qui viennent dans leur librairie peuvent avoir la gazette. Et sinon, on a un fichier qui commence à être assez conséquent maintenant, qui est de 4000 noms, qui sont toutes les compagnies de théâtre, tous les CDN, toutes les institutions, toutes les beaucoup de particuliers aussi, des gens qui sont dans les CDI, les professeurs, des bibliothécaires, bon, les gens un peu concernés par le théâtre, qui ont envie de suivre nos publications, puisque la gazette, c'est un petit outil de communication, trimestre par trimestre, il y en a 4 par an, qui informe sur tout ce qu'on a publié dans le trimestre. Voilà. Et on l'a pensé comme une sorte de petite revue. Donc à chaque fois, on zoome sur un aspect, peut-être celui qui nous a le plus intéressé au travers du livre, ou de moins celui dont on a envie de transmettre plus particulièrement, l'aspect qu'on a envie de transmettre plus particulièrement.
Et j'aurais une question à vous poser aussi par rapport aux autres maisons d'édition. Alors c'est peut-être une question, c'est plus une question d'économie du texte, mais est-ce que vous considérez les autres éditeurs comme des concurrents, ou est-ce qu'il y a vraiment concertation entre les maisons d'édition ? Parce que c'est une question qui peut paraître un peu naïve, mais comment est-ce que ça fonctionne, les liens entre les maisons d'édition ?
Il n'y en a pas. Et puis il n'y en a pas à avoir, à part qu'on pratique le même métier. Voilà, après, chacun, aussi bien Pierre Banos, Sabine Chevalier, Rudolf Rahr, fait des choix de texte, a priori centré autour du théâtre. Donc ça peut ressembler au métier que moi je pratique aussi, sauf que les structures sont pas du tout les mêmes, et ça, faut faire très très attention à ça. Les structures des maisons d'édition ne sont pas les mêmes. Certains sont des éditeurs uniquement spécialisés, d'autres sont des éditeurs généralistes. Moi, je suis un éditeur généraliste, je suis un département dans une maison d'édition généraliste, donc ça n'a pas grand chose à voir. dans la façon de faire le travail. Le résultat, elle-même, on constitue tous un catalogue, et un catalogue qui est spécialisé théâtre. Après, on peut se lire les uns les autres, on peut s'envoyer des auteurs. Moi, parfois, à certains auteurs, je dis « Ah, bah, ça, c'est plutôt le style des éditions Les Solitaires Intempestifs, ou c'est plutôt l'Arche, ou vous voyez, ou voyez si l'entretemps ne peut pas faire ce type de bouquin, parce que moi, je ne fais pas. Donc, je pense que ça doit exister aussi dans l'autre sens. » Voilà, il y a Émile Lanzmann aussi qui fait un travail. Chacun s'est trouvé un peu, on va dire, son territoire depuis toutes ces années, puisque les maisons, on va dire, ont entre 20 ans et 32 ans d'existence en ce qui nous concerne. Mais bon, voilà, ça a été créé un peu au même moment, et voilà, et tant mieux, heureusement que ça existe, parce que vous imaginez, sinon on serait submergé de propositions, hein. Enfin, moi, je suis contente d'avoir des confrères, quoi. Bon, voilà, après, la vente des livres, c'est le lecteur qui l'a fait, et bien entendu, ça passe par des systèmes de diffusion, de distribution, ça passe par des outils de communication, ça passe par les idées et les inventions que chaque éditeur peut avoir pour faire connaître ses découvertes. Là, on est chacun son job, quoi. Voilà.
Et du coup, la maison Actes Sud, vous êtes éditrice, vous choisissez, vous lisez des textes. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'Actes Sud, justement, qui fait qu'elle est si particulière? Parmi les autres, comment est-ce que vous définiriez cette particularité?
Mais qu'est-ce que vous trouvez comme particularité, vous?
Non, mais je vous demande, parce que Actes Sud, c'est vrai, publie des auteurs d'un certain type.
Et par exemple, définissez-le.
Je ne suis pas forcément capable, mais j'ai l'impression qu'Actes Sud est dans des textes beaucoup plus poétiques. Ne serait-ce que Olivier Py, par exemple, le fait qu'Olivier Py soit publié en majeure partie à Actes Sud, pour moi, fait quand même d'Actes Sud une maison qui délivre un message poétique et politique à la fois. Mais je pense que c'est le cas de toutes les autres maisons d'édition. Mais enfin, je voulais savoir dans votre perception de votre travail d'éditrice, si vous aviez une focalisation précise, un paysage précis que vous voudriez dessiner en choisissant tel ou tel travail.
C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Aujourd'hui, c'est plus 1000. Mais ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, c'est les historiens, les commentateurs, les gens comme vous qui dites « Ah bah oui, ça dessine un catalogue. » Bah c'est sûr, la décoration de mon bureau n'est pas celle de Rudolf Rahr ou de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, inévitablement, dans la décision éditoriale, non seulement il y a la recherche du talent, et où il y a une exigence... à l'égard des auteurs que l'on choisit, inévitablement, j'ai envie de dire, et heureusement, il y a une part subjective, il n'y a pas de vérité. Donc, à partir de ce moment-là, cette part-là, ça donne une couleur au final. Quand on se retourne et qu'on regarde le catalogue, je me dis, ah ouais, c'est pas la même couleur que... d'autres maisons d'édition, ouais. Mais bon,
vous en faites pas une politique particulière, en fait.
Non.
D'accord.
Non, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais plutôt ce que j'aime pas d'ailleurs que ce que j'aime. Mais bon, c'est difficile à dire, parce que si vous voulez, vous dites Olivier Py est poétique. Bon, voilà, c'est votre ressenti de l'écriture d'Olivier Py.
Et du coup, vous pensez qu'en tant que personne, vous n'interférez pas véritablement, en tout cas pas totalement, dans les choix de publication?
Parce que... puisque je vous ai dit qu'il y avait une part de subjectivité. La subjectivité, c'est la personne.
Oui. Oui, on peut considérer que c'est la personne, effectivement.
Ouais.
Mais du coup, il y a quelque chose aussi qui est assez étonnant dans la maison Actes Sud, c'est que parfois il y a des publications d'écriture collective, enfin, en tout cas dans ce que j'ai compris, de collectif, la compagnie de l'écrou, je crois, j'ai vu.
Les sans coups.
Les sans coups, oui, pardon. Ouais. Donc vraiment une écriture scénique qui est publiée. Ou même, je suis en train de lire Sonia Chambretto.
Ouais.
Et je trouve assez étonnant aussi son écriture. Quel choix aussi de publier des formes d'écriture qui n'ont pas spécifiquement, en tout cas, dans mon ressenti, qui n'auraient pas spécifiquement une trace écrite pour. Qui n'ont pas été forcément écrits en vue d'être publiés à la scène. Est-ce que vous travaillez aussi avec des textes des scènes que vous voulez voir devenir textes, mais qui au départ ne l'étaient pas forcément prévu. Tout est toujours prévu.
Non. Tout. Moi quand c'est pas. C'est-à-dire que tout est écrit avec des mots. Voilà. Moi, je ne sais publier que ça. Quand ce sont des écritures visuelles ou quand ce sont... Bon, je peux éventuellement m'intéresser à l'artiste et me dire, là, à ce moment-là, je vais faire un beau livre et je vais publier des images. Mais quand je publie une pièce, c'est qu'il y a une écriture, c'est qu'il y a un univers, c'est qu'il y a... un auteur derrière. Alors, Sonia Chambretto n'a rien à voir avec le collectif Les Sans Coups. Alors, mais c'est deux questions qui peuvent être intéressantes. Alors, Sonia, son écriture est effectivement, et vous avez raison de le souligner, très formelle. C'est-à-dire que elle pense les mots avec un espace. Avec une puissance, avec une force, avec un et en ça se rapproche peut-être de la poésie. Dans la mise en page, on a essayé de respecter ses souhaits et en même temps, on a essayé de ramener la question graphique et visuelle à quelque chose de textuel. À savoir, moi je pense que un texte et les mots doivent être à même de tout dire. Je pense qu'on a suffisamment dans le langage de possibilités même exprimer les questions d'espace et les questions de temporalité et les questions de puissance. Bon, voilà. Donc ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Sonia parce que c'est une écriture particulière. Mais c'est la seule que je publie dans ce cas-là. Et pourquoi je la publie ? Parce que finalement, au fond, bizarrement, mais là, pour intéresser vos auditeurs, il faudrait lire des extraits ou plutôt les voir. Bizarrement, il y a une narration. Ce n'est pas juste des mots comme ça posés dans la page. C'est que de façon étrange, il y a une narration, il y a une fable avec des personnages. Et moi, c'est quand même avant tout ça qui m'intéresse. Le deuxième point sur les écritures collectives. Alors, effectivement, pour la première fois, j'ai publié deux, on va dire, collectifs. Alors, le premier... C'est une femme, Tiphaine Gentillot et les filles de Simone. Mais c'est quand même Tiphaine Gentillot qui a écrit le texte, on va dire. Et le contrat le dit aussi, puisque trois quarts des droits reviennent à cet auteur. Donc on va dire, c'est simplement, elle a eu des collaborateurs autour. Bon, donc c'est pas vraiment une écriture collective. L'écriture collective, c'est le collectif des sans coups. Et ça m'a vraiment posé question. Parce qu'en fait, je voyais toujours qu'une personne. Et cette personne, j'ai jamais vu les neuf personnes du collectif les sans coups. Et cette personne semblait me dire que c'était elle. Parce que j'ai dit, mais qui pose le final cut? Voilà, c'était ma question. Après, que les textes, ils émergent d'improvisation, et j'écris un bout chez moi, et tu complètes chez toi, et je reprends chez moi. Bon, finalement, on s'en fout. Mais qui décide? On s'arrête là. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Qui décide ça? Est-ce que c'est un avis collectif ou une personne? Et dans le collectif Les 100 coups, c'était une personne. Mais quand il s'est agi de dire cette personne, c'est pour ça que je la nomme pas, avec le collectif Les 100 coups, ça a posé un problème à l'intérieur de son collectif. C'est-à-dire qu'il était trop mis en avant par rapport à la notion de collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça participe beaucoup plus, on va dire, d'une éthique. Et alors moi, j'ai eu du mal dans la mienne, parce que moi, avant tout, c'est de défendre un auteur. Donc on a longuement discuté, même à un moment donné, j'ai failli remettre en question la publication, parce que ça ne m'intéresse pas de publier un collectif. Parce qu'un collectif, c'est personne. Un collectif, c'est un temps, à un moment donné, un groupe. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez défendre? Et la preuve, le texte d'après, au lieu d'être 9, ils étaient 5. Donc on s'est adapté, on a fait un contrat à 5, et on a fait des contrats nominatifs, évidemment. Hein. Mais voyez, on appelle ça toujours le collectif Les 100 coups. C'est comme si Ariane Nouchkine ne signait pas ses textes elle-même, mais elle signait Théâtre du Soleil. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'engage pas. Voilà. Et donc, avant tout, ce n'est pas des textes, des partitions qu'on défendrait. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'auteur, si ce sont des anonymes, ça existe. Hein. La Folie Tristan, c'est un anonyme qui l'a écrit. Bon, voilà, autrefois, c'était ça, il n'y avait pas d'auteur. Bon, on voit aussi à quelle vitesse ça disparaissait.
Eh ben, je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Et puis, bonne lecture à vous. Merci, Claire David.
Merci, au revoir.
C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regarde intime.